Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, K comme Konchalovsky, Andrei Konchalovsky, l'inclassable, avec Michel Simon, Eugénie Zvonkin et Entebbe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, inclassable, oui, Andrei Konchalovsky, premier représentant de la nouvelle vague russe des années 60 avec un autre Andrei, Tarkovsky, dont il fut le scénariste notamment pour Andrei Rublev. Il est célébré par le pouvoir soviétique avant d'être interdit pour dévationnisme naturaliste et formaliste et devra attendre 20 ans pour que son premier chef-d'œuvre, Le Bonheur d'Assia, sorte enfin sur les écrans. Après 10 ans de profil bas et d'adaptation littéraire, il ne représente l'URSS au Festival de Cannes avec une vaste fresque sur l'histoire de la Sibérie, Sibériade, grand prix spécial du jury en 1979, que pour partir immédiatement à Hollywood, y réaliser aussi bien un grand film d'auteur intimiste comme Maria's Lovers ou ce pur bijou du film d'action des années 80 qu'est Runaway Train, qu'un des pires navets avec Sylvester Stallone, Tango et Cash. Le seul soviétique à avoir fait carrière à Hollywood n'en revient pas moins en Russie dès la chute du communisme pour y interroger la spécificité du rapport de ce vaste pays au totalitarisme avec le cercle des intimes, filmer sa difficile conversion à l'économie de marché, Riabamapoul, ou encore la guerre de Tchétchénie vue d'un asile psychiatrique avec la maison de fou, tout en tournant en même temps un casse-noisette à grand spectacle ou l'Odyssée d'Homère pour la télévision américaine. Auteur et mercenaire, cosmopolite et terriblement russe, Konchalovsky l'éclectique a coutume de dire que, contrairement à son frère cadet, légalement cinéaste et homme de certitude, Nikita Mikhalkov, lui, il doute. Et de ce fait, il a toujours suscité l'interrogation, dissident discret ou apparatchik déguisé, non, répond Michel Simon, celui qu'il avait repéré dès son premier long métrage, Le Premier Maître en 1965, ni dissident, ni partisan, ni courtisan, c'est le titre du livre de conversation avec le cinéaste qu'il vient de publier et pour lequel nous le recevons aujourd'hui dans Plan Large. Face à lui, Eugénie Zvonkin, historienne et spécialiste du cinéma russe, qui nous avait parlé ici même il y a un an, d'encore un autre Andrei, Zviagintsev, et Entebbe, qui en fin d'émission nous évoquera quelques-uns des films ressortis en salle d'un cinéaste à qui Konchalovsky, de son propre aveu, a beaucoup volé, Akira Kurosawa. Mais pour l'heure, le grain est récolté, il est temps de festoyer.
Galia, ну-ка, давай! Давай, пап, собирай быстрее!
Сейчас!
Едет! Музыка! Давай!
Товарищ колхозница, благодаря вашей хорошей работе мы успешно завершили весеннюю посевную кампанию. Урожай выращен отменный, и сегодня у нас праздник. Мы приступили к косьбе зерновых культур. Такая же наша с вами задача. Это в первую очередь и в сжатые сроки убрать без потерь весь урожай.
Советская страна, кипучая, могучая, никем не победимая.
Полностью срочно выполнить план заказ Родины. А ведь хлеб – это наше богатство. Мы не только обеспечиваем полностью себя хлебом. Да бабоньки, ядрить мой город. Помогите ее остановить, что он делает?
Только слышно на улице где-то немного ядра на рубане. Слава
Les plus russophones d'entre vous auront compris que nous sommes dans un kolkhoz, en fait la bonne récolte, on chante, c'est Le Bonheur d'Assia en 1967, le deuxième long métrage d'Andrei Konchalovsky après Le Premier Maître en 1965, qui lui avait valu d'emblée une renommée internationale. Il faut donner le titre original de ce Bonheur d'Assia, Histoire d'Assia la boiteuse qui a aimé mais ne s'est pas mariée, un titre qui dit déjà l'ampleur du scandale à venir, puisque nous sommes dans une URSS brejnevienne complètement obsédé par le refus du corps, le refus de la nudité, de l'amour et donc de toute sexualité. Et le principe d'une fille mère, ce n'est pas très à la mode dans le cinéma russe, soviétique à l'époque, mais c'est surtout cet étalage très cru, très photographique, comme ça, de la rudesse du mode de vie kolkhozien sous un jour pas du tout idéalisé, c'est-à-dire à l'exact opposé du réalisme socialiste qui va créer un peu problème. Le film va être censuré, mais alors c'est raconté Michel Simon par Andrei Konchalovsky dans ce livre passionnant vraiment d'entretien qu'il vous a accordé avec cette faconde et ce lyrisme dans sa parole. Le film est censuré, mais c'est une censure qui ne dit pas son nom. Il n'y a jamais eu de censure officielle du film. Les problèmes commencent quand il montre le film aux personnages qu'il a filmés, c'est-à-dire les vrais habitants d'un kolkhoz, qui refusent absolument de s'y reconnaître. Vous, c'est un film que vous avez découvert, je crois, en 1977, à Moscou, quand Konchalovsky vous le montre clandestinement.
Oui, parce que je connaissais déjà Konchalovsky, comme vous l'avez dit, à Venise. Je l'avais rencontré pour son premier film. Donc j'ai été venu pour le Festival de Moscou pour faire aussi une grande enquête. Et il m'a montré clandestinement ce film. Ce qui s'est passé, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que les autorités, c'est pas bien de censurer, donc alors ce qu'ils font, c'est que effectivement ils montrent le film à la population du kolkhoz qui ne se reconnaît pas, évidemment jamais les gens ne se reconnaissent, qu'ils soient d'ailleurs avocats, enseignants, il n'y a pas que les gens d'un kolkhoz, les gens ne se reconnaissent jamais sur un écran, et du coup ils ont sorti le film dans 6 salles en tout sur toute l'Union soviétique, alors dans ce pays on sortait les films dans 2000 copies, voilà, donc ça, le film en fait n'a pas été vu, mais il n'a pas été vraiment censuré.
Ce qu'on va lui reprocher aussi, je parlais tout à l'heure dans mon introduction de dévasionnisme formaliste, naturaliste, ce qui est très troublant avec ce film, et vous qui connaissez bien le cinéma russe et soviétique, Eugène Zvonkin, c'est qu'il va faire un geste qui est très proche de celui de la Nouvelle Vague. Il va mélanger des comédiens professionnels et majoritairement des comédiens non professionnels. Il va utiliser plusieurs caméras, c'est ce qu'il raconte aussi dans ce livre, dont certaines tournent, certaines ne tournent pas. Comme ça, les gens ne savent jamais qui les filme et à quel moment. Il va dire, je voulais tourner, là je cite un passage de ce livre, je voulais tourner non pas un film de fiction, mais un film d'actualité où les paysans jouent eux-mêmes leur propre rôle, ce qui est assez inédit dans le cinéma soviétique de l'époque, Eugène Zvonkin.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait le cinéma soviétique de l'époque, il est très sous influence évidemment et de la Nouvelle Vague et du néo-réalisme, mais en effet il y a cette idée dans les organes, on va dire, de production et de censure du cinéma soviétique qu'il faut, on peut emprunter certains aspects de ces mouvements occidentaux, mais les adapter au contexte soviétique. Et là évidemment, ce n'est pas du tout assez adapté, c'est-à-dire que finalement on va montrer que le kolkhoz, ce qui va surtout gêner par exemple, c'est qu'on montre que le kolkhoz en fait n'est pas du tout au niveau de développement industriel.
Il n'est pas très bien géré.
Il n'est pas très bien géré, il n'est pas aussi industrialisé que ce qu'il est censé être à cette époque-là. Et puis moi je trouve que là, juste en réécoutant l'extrait que vous avez passé, qui est génial, on voit aussi comment en fait le film, presque sans le dire, fait complètement imploser les normes justement du réalisme socialiste, puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a la fête pour la récolte, il y a les chansons officielles, il y a le discours officiel, sauf que comme tout ça se mélange, comme c'est chanté faux, comme il y a quelqu'un qui chante pendant qu'il y a quelqu'un qui essaie de prononcer un discours officiel, finalement, voilà, toutes ces normes officielles, tout ce discours officiel est complètement implosé par une espèce de vie qui refuse d'être contenue dans les normes, voilà, de représentation, et donc évidemment c'est tout ce qui va déranger énormément à l'époque avec le film.
Il faut préciser qu'Andrei Konchalovsky ne sort pas tout à fait de nulle part quand il se met au cinéma, il vient d'une grande famille artistique, des aïeuls qui sont Vassili Soubrikov et Piotr Konchalovsky, c'est-à-dire des grands peintres du côté de sa mère. Sa mère elle-même est une grande amie de l'intelligentsia artistique soviétique. Elle est amie avec Gorky, elle est amie avec Eisenstein. Son père, c'est le poète officiel du régime qui va écrire, je crois, 3 versions de l'hymne, les paroles de l'hymne de l'Union soviétique.
L'une pour Staline et l'autre pour Poutine.
Voilà, c'est dire sa longévité.
Une pour Brejnev entre les deux.
Voilà, c'est dire sa longévité. Et puis donc, il a fait une école de cinéma, la grande école du cinéma, le geek, le FGIK soviétique. Et là, il va vous parler, Michel Simon, de ses maîtres. Et ses maîtres, ce sont Bergman, son Fellini, son Buñuel et Kurosawa. On y reviendra en fin d'émission avec Entebbe. Quelles influences on peut retrouver de fait dans son cinéma? Alors, on vient parler de l'influence de la Nouvelle Vague, mais l'influence notamment de Kurosawa, dont il vous parle beaucoup, Michel Simon.
Oui, bah, Kurosawa, il en parle dès son premier film, Le Premier Maître, qui a été tourné en Kirghizie. Ça se passe en 1924. Un soldat de l'armée rouge est chargé d'éduquer les enfants d'une école primaire au marxisme. Il faut les former au marxisme. Évidemment, les enfants rigolent bien et tout ce qu'il peut dire de façon sentencieuse, ils comprennent rien à ce que l'autre nous dit. C'est un film assez subversif, finalement, et qui, lui, contrairement au Bonheur d'Asia, a été accepté, puisqu'il a même représenté le cinéma soviétique à Venise. C'est un film aussi où tous les gens du pays, c'est tous les Kirghizes, jouent leur propre rôle. Il n'y a pas non plus d'acteurs, sauf le premier maître, l'instituteur, et puis celle qui va devenir l'épouse de Gonchalovski, sa première épouse, qui est une actrice kirghize très belle, qui se baigne nue d'ailleurs dans un lac. Là encore, on enfreint tout de même les codes du cinéma soviétique. Et donc là, Kurosawa, il cite dans le livre, effectivement, l'influence majeure, c'est des séquences qui sont vraiment inspirées par Kurosawa. J'ajouterai à ceux que vous avez dit, qui sont très, très justes, Bresson. Il fait des réserves sur Bresson, sur les comédiens, sur la façon dont il utilise les comédiens, ou les non-comédiens. Mais en dehors de ça, Bresson est une très forte influence sur lui.
Un extrait aussi onirique que fantastique de Sibériade, le film qui valut à Gonchalovski, je l'ai dit tout à l'heure, un grand prix spécial du Festival de Cannes en 1979, hein, l'année de la Palme d'Or ex aequo au tambour et à Apocalypse Now, beau palmarès à cette époque, avec ce paradoxe toujours de Mikhalkov Gonchalovski, parce qu'on va le dire, hein, celui qui joue le rôle principal, c'est Nikita Mikhalkov, son frère. C'est que le film, Michel Simon, au départ, est une commande officielle, très officielle du régime. Il s'agit de fêter le 26e congrès du Parti communiste, faire une grande fresque qui va raconter la découverte du pétrole en Sibérie. Évidemment, quand on confie ça à Gonchalovski, ça devient plus compliqué. Il va faire des portraits complexes et très nuancés des capitalistes, des riches, parce que c'est l'affrontement de deux familles sur quatre générations. Et il vous raconte, alors, de manière complètement rocambolesque, comment il a fait en sorte que le film soit sélectionné au Festival de Cannes en cachant des cassettes dans son pantalon, Michel Simon.
Oui, c'est-à-dire Gilles Jacob l'avait incité à venir le voir, parce qu'il le connaissait évidemment pour ses films précédents, et il s'est débrouillé, au nez, à la barbe des autorités, il a apporté le film qui a été montré. Il faut dire aussi que le film ne s'inspire pas, mais est un peu en parallèle avec le Novecento de Bertolucci. Lui aussi, histoire de deux familles, histoire sur un siècle, enfin toute une histoire de l'Italie, très différent du Novecento. Je pense que le film a été évidemment très très bien accueilli, puisque ce grand prix du jury, mais en même temps, il y avait des gens qui étaient un peu réticents, parce qu'ils trouvaient trouvais que Kончаловski justement versait dans le monumental. Et en revoyant le film pour préparer ce livre, je me suis rendu compte que c'était un film très très intimiste. C'est pas du tout une fresque soviétique classique comme un Bondarchuk aurait pu le faire. Au contraire, c'est un film qui rejoint tous les thèmes de Kончаловski, la famille, la nature, les paysages, les fantômes, etc. Des choses qu'on retrouve dans tous ces films.
Et une dimension fantastique, Eugénice Von Kin, qui est très souvent présente dans le cinéma d'Andrei Kончаловski. Si on retient juste le naturalisme, justement, monstrueux du Bonheur d'Asia, c'est pas Kончаловski. Kончаловski, il y a cette dimension presque surréaliste.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la séquence qu'on vient d'entendre, on la retrouvera de façon très similaire dans Le Bayou, par exemple. Vous le notez très justement dans l'entretien que vous faites avec Kончаловski. Absolument. Je voulais peut-être rajouter aussi quelque chose que vous disiez. J'étais frappée en revoyant Sibériad là, avant notre rencontre, par le fait que, en effet, c'est un film où le politique est vraiment toujours complètement hors champ. Et les rares fois où il rentre dans le champ, c'est vraiment sous forme de menace. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir pris un film de commande, qui était un film pour célébrer effectivement, encore une fois, l'industrialisation, la soviétisation en fait des territoires voilà, immenses de la Sibérie, et d'en avoir fait quelque chose où au contraire l'intime et la famille et le destin individuel est menacé par des espèces d'événements très lointains. D'ailleurs, ça commence à un moment où la révolution a eu lieu, mais on en a à peine entendu parler. En fait, là, on est. Donc voilà, c'est toujours comme ça, complètement mis hors champ.
Alors, ce qui complexifie encore les choses, c'est que donc il donne le rôle principal à son frère cadet Nikita Mikhalkov, qui n'est pas encore le grand hiérarque poutinien du cinéma russe qu'il est aujourd'hui. Quels sont les rapports entre les deux frères? Il semble assez complexe à lire ce livre, Michel Simon.
Oui, c'est-à-dire que bon, c'est évident que politiquement, il représente les deux grandes tendances qui sont toujours manifestées dans l'intelligentsia russe, c'est-à-dire d'une part les slavophiles. Nikita est vraiment slavophile, il est donc tourné plutôt vers Byzance, vers l'Orient, etc. Et au contraire, Kончаловski, c'est un occidentaliste, c'est-à-dire c'est peut-être Saint-Pétersbourg contre Moscou. Et Kончаловski, comme Tourguéniev, comme d'autres écrivains russes, est tourné, effectivement, Tourguéniev, qui était l'ami de Flaubert, etc., il est tourné vers l'Occident, ce qui lui a permis d'aller travailler, par exemple, 10 ans à Hollywood, alors que Nikita est toujours resté comme un potentat du cinéma soviétique. Mais ce qui est surtout étonnant de l'histoire de Sibéria, c'est que voilà cet homme qui avait été un peu mis à l'écart dans Le Bonheur d'Asia, puis qui avait fait des films de commande, il se retrouve avec un grand prix à Cannes, tout lui est ouvert, et il dit « Goodbye, je m'en vais, je pars à Hollywood pendant je ne sais combien d'années », il s'en va, alors qu'il avait un pont pour... On lui dit même « Bon, d'accord, faites votre Rachmaninov », il voulait faire Rachmaninov que les autorités refusaient parce que l'homosexualité s'était pas bien portée, etc. Il voulait faire Rachmaninov, eh bien on lui refusait toujours. Ils sont prêts à lui laisser faire Rachmaninov. Il dit non, 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 je m'en vais. Et en pleine gloire, il s'en va aux États-Unis.
Why were you spying on? Don't you dare!
Don't I dare! Don't I? You're crazy! Are you crazy?
Okay. Fine. Cut it off. That's what you want.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Andrei Konchalovsky avec Michel Simon, Eugénice Von Kin et Ntebin. Je vous voyais rire, Eugénice Von Kin, pendant cet extrait. Il est pourtant très malaisant et très célèbre. Hein. C'est un extrait de Maria Slovers en 1983. On a entendu Nastassia Kinski et John Savage. C'est le premier film américain d'Andrei Konchalovsky. Mais Michel Simon, vous notez que c'est encore un film russe. Et d'ailleurs, il est tourné dans une communauté slave de la Pennsylvanie, comme Cimino l'a filmé dans Voyage au bout de l'enfer. C'est un film de transition, Michel Simon.
Oui, c'est un film de transition, mais le Bayou, qui sera son troisième ou quatrième film américain, est très apparenté à Maria Slover. C'est-à-dire que dans ma préface, j'oppose, après le grand philosophe d'origine russe, Isaiah Berlin, philosophe anglais d'origine russe, qui considère qu'il y a deux types de créateurs. C'est très intéressant parce que ça aide à comprendre Konchalovsky. Il dit qu'il y a les hérissons et les renards. Les hérissons, c'est les cinéastes qui creusent leurs trous et qui font tout le temps, au fond, le même film. Bresson, Yangcho, Angelopoulos, Tarkovsky, ce sont des gens qui creusent leur sillon. Et les renards, alors, c'est eux qui prennent des allures très, très différentes. Kubrick est un renard, et Konchalovsky est aussi un renard. C'est-à-dire que on a beaucoup de mal. C'est un éclectisme. Il y a des gens que Renoir, même chez nous, est aussi très éclectique. Et je pense que Konchalovsky a une capacité de métamorphose qui lui a permis, justement, aux États-Unis de devenir aussi, en partie, un cinéaste américain.
Il faut lire votre livre pour voir comment Konchalovsky essaye de tourner en France, mais Tarkovsky et Toscan du Plantier font courir une rumeur comme quoi il serait un agent du KGB. Comment il arrive à Hollywood, persuadé qu'avec son Grand Prix cannois, il est une star absolue, personne ne le connaît là-bas, et il survit en faisant du trafic de caviar, ou aussi comment il a rencontré le duo improbable Menachem Golam, Yoram Globus, les grands producteurs de la Canon, ceux qui produisaient les films de Chuck Norris, Sylvester Stallone, Charles Bronson ou Jean-Claude Van Damme, mais aussi qui produisait Cassavetes, Altman, Schatzberg et même Jean-Luc Godard. Quand vous voyez ce Maria's Lovers, Eugénice Von Kin, vous avez l'impression de voir un film russe ou un film américain ?
Bonne question. Non, je rigolais justement pour cette raison-là. Évidemment, l'extrait n'est pas du tout lui marrant, mais c'était parce que je repensais à ce que vous dites, si justement Konchalovsky sur l'aspect russe de certains de ses films, et en particulier sur l'excès, en fait, l'amour de l'excès chez les personnages, et je crois qu'il en parle pour Duo pour une soliste, en disant que c'était pas possible, il a fait ça pour des Britanniques, et alors les Britanniques ne peuvent pas faire une crise d'hystérie. Et là, dans Maria's Lovers, et là où il a l'intelligence, c'est que d'avoir mis ça dans une communauté, quand même, avec des origines slaves, donc là, on comprend justement ces excès, ces grands élans de cris, vraiment de colère, de rage, qu'on entend dans cet extrait, et vraiment, on y va sans hésitation, effectivement. À la fois, moi, ce que je trouve très... je trouve que c'est un très très beau film, Maria's Lovers, et je trouve que c'est un film très charnel. Et on voit aussi, justement, là, on voit vraiment quand même tout d'un coup des possibilités qui s'ouvrent à Konchalovsky. D'ailleurs, je crois que lui-même était très critique sur cet aspect-là dans le film, alors qu'en fait, c'est très beau. Mais il disait qu'enfin, il pouvait faire des scènes finalement érotiques.
Oui, ça, il regrette un peu d'en avoir montré autant, parce qu'il chante beaucoup l'art de l'ellipse et de ce qu'on ne montre pas et de surtout qu'on n'explique pas. Enfin, c'est quelqu'un qui fait une grande confiance à la part d'imagination du spectateur, Michel Simon.
Oui, il faut dire tout de suite à propos de Maria's Lovers, parce qu'au départ, c'était un film qui devait être français, et il a été écrit, la première mouture du scénario, avec Gérard Brache, le grand scénariste français qui a travaillé beaucoup avec Polanski. Et évidemment, Polanski, c'est aussi un cinéaste de l'ellipse et de la suggestion, etc. Et il y a cela, évidemment, chez Konchalovsky, comme d'ailleurs la plupart des grands artistes. C'est pas... peut-être il y a Tarantino qui ne pratique pas trop l'ellipse, mais c'est un peu une exception.
J'ai beaucoup aimé dans votre livre quand il raconte comment il découvre justement l'ellipse. Pour moi, il y a deux moments clés qu'il vous raconte. C'est celui où Andrei Rublev, qu'ils ont écrit, est beaucoup trop long et qu'il décide avec Tarkovsky d'arracher des pages au hasard et qu'ils relisent et se disent « mais c'est vachement bien, ça marche ». Voilà, et donc je trouve que c'est
une bonne
très
leçon
beau.
De scénariste, ça.
Voilà, complètement empirique, mais finalement ça marche bien. Enfin, sur le fait que finalement on peut se passer de choses qu'on aurait intellectuellement jugées essentielles et qu'en fait ça apporte de la vitalité au récit. Et l'autre chose qu'il raconte, c'est le scénariste avec lequel il travaille sur Siberia, et qui lui dit cette chose, chacune de tes séquences doit se finir aux deux tiers. Et je trouve que en revoyant les films de Kanchalovski après avoir lu ça, j'ai trouvé ça extrêmement évident que c'est effectivement très régulièrement ce qu'il fait, hein, de couper les séquences.
Alors, moi, je trouve que l'une des vertus aussi de ce livre, c'est que l'air de rien, c'est une succession de leçons de mise en scène. Et que, mais il y a des moments incroyables. Il y a cette chose. Très fondamental qu'à un moment il découvre, relativement récemment d'ailleurs, c'est que le hors-champ peut être plus explicite que le champ. Donc ne pas suivre le personnage, mais continuer à l'écouter. Et il dit que ça peut décupler la puissance. Et il y a même une scène hallucinante, je crois que c'est pour les Nuits Blanches du Facteur, où il dit que comme il a pris un non-professionnel et qu'il sait pas le faire jouer, en plus il y a trois caméras et tout, alors il dit à tout le monde, c'est la pause dîner, il s'en va, il garde le casque sur les oreilles, et en fait il s'est mis d'accord avec le partenaire qui joue le facteur, pour continuer la conversation. Et c'est là qu'il a la scène qu'il veut. Et il dit c'est extraordinaire. Donc il a même pas besoin de voir la scène. Il l'entend et ça suffit. Et il y a comme ça plein de choses qui ont l'air d'être des paradoxes, mais qui sont des leçons de cinéma.
You think you're a hero, huh? Shit. You're scum.
The boss come, brother.
You're going to push that button and stop this train! We've only got a few minutes!
We got all the time in the world.
You'll die, bastard!
You'll die with me.
Fuck you. You're as afraid to die as anybody else. And I never let you free. You hear me?
I am free, Frank. I am free.
You think you won? I know how to die too.
Win, lose, what's the difference?
What about that punk and the girl?
Gagner, perdre, quelle est la différence? Si pour Truffaut, les films étaient des trains qui avancent dans la nuit, là, c'est un train qui avance dans la neige, c'est Runaway Train, je crois, un de mes films préférés de Kanchalovski, un bijou de concision et de poésie, dans un film qui est un film de pure action. C'est un scénario original de Kurosawa, je l'avais oublié, et vous le rappelez, Michel Simon, dans ce livre d'entretien avec Andrei Kanchalovski. Kanchalovski, qui est toujours très modeste, je trouve, avec son travail, et qui va dire que le scénario, alors que c'est vraiment un film extraordinaire, Runaway Train, il va dire que le scénario de Kurosawa était bien meilleur que ce qu'il avait fait, il était très zen, il fallait avoir son génie, je le cite, pour écrire un scénario qui n'avait pas de sujet, Michel Simon.
Oui, c'est vrai que, d'abord, je crois, beaucoup de grands artistes sont des gens inquiets, sont des gens insatisfaits. Il y a que les gens qui n'ont pas beaucoup de talent, qui sont très sûrs d'eux et qui pensent avoir fait des chefs-d'œuvre. Et Kanchalovski, c'est vrai, dit même que c'est récemment, dans deux films, Paradis.
Il y a 80 ans passés, il dit, j'ai enfin compris le cinéma, que j'ai enfin découvert comment ça se fait.
Qui ont eu d'ailleurs deux Lions d'argent à Venise, dans l'indifférence complète en France, parce qu'en France, il n'y a qu'un seul festival, tout le reste n'a aucun intérêt. Donc, c'est les Nuits Blanches du Facteur et puis Paradis, où il dit qu'il a découvert à 75, 76, maintenant il a 82, bon, mais qu'il a découvert le cinéma. Mais enfin, je crois que c'est aussi un peu, c'est son côté un peu lyrique qui passe aussi dans ce genre d'autocritique. Mais c'est vrai que Runaway Train, c'est un film parfait dans son genre. On peut préférer d'autres films de Kanchalovski, mais c'est vrai que c'est un film qui a un sens de l'action. Tout à fait américain. Enfin, c'est aussi fort que la plupart des grands films d'action américains.
Et un sens du rythme aussi, de la musicalité. Moi, j'étais très frappé en réécoutant les extraits. La voix de John Voight, comme on vient d'entendre, et celle d'Eric Roberts. Pour quelqu'un dont ce n'est pas la langue du tout naturelle, il y a une façon de faire parler les acteurs et de trouver cet accent qui signe leur origine, qui est très frappant. Et sur le rythme et la musicalité, il vous a dit, Michel Simon, que pour lui, Runaway Train, c'est une toccata. On sent la formation musicale. Mais il y a ce plaisir de la langue, Janice Van Kyn, chez Kanchalovsky, toujours.
Absolument, la parole a beaucoup d'importance et elle n'est pas du tout antinomique avec le fait d'être cinématographique, je trouve. Alors on l'a entendu déjà dans Le Bonheur d'Asia, effectivement, dans cette manière de faire se confronter les différents types de sons et déjà d'entendre justement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des voix qui sont des voix non normées aussi, qui ne sont pas du tout habituelles dans le cinéma soviétique, c'est-à-dire des vraies voix de paysans, des prononciations un peu de travers de certains mots, enfin voilà, tout ce qui donne de la saveur aussi aux voix. Et donc oui, je trouve que finalement, dans le cinéma, son cinéma américain, il a réussi à trouver des choses très similaires des fois. Et je trouve qu'effectivement, on est très éclairé de comprendre sa formation musicale, voilà, de comprendre la manière dont il traite la bande-son et la voix qui va prendre aussi une importance extrême avec des films comme Paradis, où la moitié du film, c'est des confessions face caméra. Et pourtant, c'est extrêmement puissant cinématographiquement parlant.
Michel Simon.
Oui, justement, il faut rappeler, vous venez de l'évoquer, c'est qu'au départ, c'était un musicien. C'est-à-dire qu'il a fait 4 ou 5 ans à l'Académie de musique, quand il était adolescent, sa mère voulait qu'il soit un grand pianiste. Et quand il s'est rendu compte qu'il était, certes, il ne le dit pas parce qu'il est modeste, mais il était apparemment un très bon pianiste, mais il n'était pas un grand pianiste.
Il était en classe avec Richter, donc ça pose un peu de problèmes.
Voilà, il savait qu'il ne serait pas Richter, et alors il s'est orienté vers le cinéma. Mais la musique est très présente dans ce livre. Il en parle très souvent. Il est très attaché à cela.
D'ailleurs, il y a l'un des portraits les plus extraordinaire, je trouve, qui fait dans le livre, c'est le portrait de son compositeur Artemiev, où il dit c'était compliqué de travailler avec lui parce que il était quasiment clochardisé, et puis c'est un saint et on peut pas discuter avec un saint, avec un intellectuel on peut lui expliquer ce qu'on veut, etc., mais un saint c'est très difficile. Il y a tout le temps des paradoxes comme ça, mais il faut moi les souvenirs que j'ai comme cinéphile de Kanchalovsky, c'est très étonnant parce que j'avais vu Le Premier Maître, qui était une sorte de classique des ciné-clubs quand j'étais au lycée, avec cette scène de baignade et vraiment la séquence qui marque tous les lycéens. Ensuite, et dans les années 80, ouais, dans les années 80, on voit sortir. Alors, il y a Maria's Lovers qui est d'emblée un film que tout le monde, les cinéphiles, portent au pinacle, qui est suivi de ce film d'action, ensuite d'un mélodrame avec Julie Andrews qui joue le rôle d'une violoniste qui est atteinte de sclérose en plaques, et en même temps sort enfin Le Bonheur d'Asia, et on a l'impression comme ça d'une profusion et d'un artiste qui est complètement inclassable.
Renard.
Et puis tout d'un coup, on voit sortir Tango et Cash avec Sylvester Stallone. Et on comprend, en lisant votre livre, Michel Simon, les raisons du désastre. Parce qu'autant avec les Golan et Globus, finalement, il a eu une grande liberté créative. Mais quand on passe à la Warner, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, le régime soviétique s'écroule et on peut rentrer au pays.
Чего?
Сама, говорю, виновата.
Хоть раз. Чего это?
Надо было в колхозе оставлять. Нечего было в город пускать.
Как это такое в колхозе-то? Он тут еще больше пить-то стал.
А там бандитом стал. Что? Лучше?
Иди, блядь, отсюда.
Он умный стал.
Mais qui peut bien faire la poule dans Yaba ma poule? Eh bien, c'est Kanchalovsky lui-même qui jouait la poule géante qu'on voit dans cet extrait discuter avec une paysanne un peu ivre. On ne sait pas si on est dans le fantastique ou dans le délirium très mince. C'est Yaba ma poule en 1994 et cette paysanne, c'est Asia. Enfin, c'est le même personnage. C'est pas la même actrice qui refusera de jouer dans ce film qu'elle considère comme anti-russe. En revanche, Kanchalovsky va retrouver 30 ans plus tard les mêmes comédiens non professionnels qu'il avait filmés dans le Bonheur d'Asia, mais on est très loin même si on y est quand même assez proche du naturalisme du film d'origine, puisqu'on est dans un conte complètement fou, bouffon, carnavalesque, inspiré de La Poule aux œufs d'or, et très cartoonesque en même temps. Je me souviens avoir vu ce film quand il est sorti en France, un peu plus tard d'ailleurs qu'en Russie.
Il était à Cannes aussi.
Voilà, et il y avait ce côté cartoon, les personnages animés image par image, pixelisés. Il va dire de ce film, il est vraiment extraordinaire, ce Konchalovsky, il vous dit c'est de la filouterie ce film.
Michel, oui, alors là c'est une grande influence aussi chez lui, pour lui c'est un génie, et pas seulement pour lui, pour beaucoup de monde, c'est Gogol. C'est le côté effectivement extrêmement caricatural, satire à la Swift, propre à ce grand écrivain du 19e siècle. Et voilà, et je pense que c'est que Ryabamapool a été pas très bien compris. En même temps, politiquement, on n'en a pas évoqué, c'est un homme qui se situe vraiment dans une critique permanente. C'est pour ça que je pense que c'est ni dissident, ni partisan, ni courtisan. C'est-à-dire qu'il a passé son temps, même en Russie, à dénoncer. Et d'ailleurs, le film a été assez mal accueilli.
Et il n'a pas attendu d'ailleurs ce film-là, puisque son vrai retour en Russie, même si c'est un film qui est parlé en anglais, c'est Le Cercle des Intimes, un film qu'il tourne en 1991 sur le projectionniste de Staline, un film très complexe, très ambivalent sur la question du culte de la personnalité, puisqu'il va essayer de comprendre comment des millions de gens ont très sincèrement aimé Staline, Michel Simon.
Oui, justement, ce qui est intéressant dans ce film, Le Cercle des Intimes, c'est que ça n'intéressait pas de faire un film contre Staline, sur Staline, parce que Staline, c'est un tyran, certes, mais il voyait pas tellement l'intérêt de faire un film sur un tyran. Ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'est comment un tyran a le pouvoir. Il a le pouvoir parce que ce qu'il appelle non pas le stalinisme, mais l'ivanisme, c'est-à-dire les Ivans, qui est le nom le plus populaire en Russie, c'est-à-dire il y a le plus de Russes qui portent le nom d'Ivan qu'aucun autre prénom, et c'est ces gens-là qui, par le culte de la personnalité, ont permis à Staline de gouverner le pays pendant 30 ans. Et c'est une critique de l'ivanisme et de ce projectionniste vrai qu'il a rencontré très tard et qui continuait à vouer un culte à Staline malgré Khrouchtchev, malgré le rapport du Congrès, etc., peu importe, il continue à vénérer cet homme, et pour lui c'était l'exemple. C'est pour ça qu'il est très sceptique sur la possibilité aujourd'hui, peut-être dans 100 ans, que la Russie fonctionne comme une démocratie parlementaire, ce que Gorbatchev pensait vraiment possible. Pour lui c'est impossible dans l'état d'arriération de la population qui n'a jamais connu vraiment la démocratie. D'ailleurs Marx lui-même pensait que la révolution se ferait en Angleterre et en Allemagne et pas du tout dans des pays aussi peu éduqués que la Russie de l'époque.
Mais précisément, Eugénie Svankine, on voit que ces films très divers que va faire Konchalovsky, notamment à son retour en Russie, sont appuyés sur une réflexion politique très complexe sur la différence entre l'Orient et l'Occident, entre Byzance et Rome, et sur effectivement cette conception qu'il a qu'une démocratie n'est pas possible en Russie, ne serait-ce que pour une raison de territoire, parce que tous ces villages sont trop éloignés pour qu'il y ait même un marché et donc une démocratie.
Oui, juste deux mots. D'abord, effectivement, sur ce retour difficile pour Konchalovsky, parce qu'effectivement, il est très heureux, je crois, de revenir en Russie, de recommencer à faire des films, sauf que ses premiers films ne sont pas très bien reçus en Russie, ni par la critique, ni par le public. Il dit très, très justement dans votre livre que son frère, Nikita Mikhalkov, lui dit en 91, quand il fait Le Cercle des Intimes, est en retard, nous, on a déjà tous fait ce film-là. C'est-à-dire le film, finalement, qui essaie de faire sens de l'expérience soviétique.
Ce qui n'est pas vrai du tout, d'ailleurs.
Ce qui n'est pas forcément vrai, mais en fait, effectivement, depuis les années 87, il y a quand même un certain nombre de films qui sortent et voilà, donc tout d'un coup on lui dit ça, bon, peut-être parce qu'aussi il revient et que tout d'un coup on lui dit bah, c'est un peu facile, toi tu reviens. Voilà, quelque chose.
Il faut défendre sa place aussi.
Voilà. Et je pense que pour Ryabamapool aussi on lui en a voulu pour deux choses, d'une part parce qu'en effet certains ont compris le film comme anti-russe, mais aussi je pense parce que les critiques de cinéma, par exemple les historiens de cinéma qui avaient adoré et défendu Le Bonheur d'Assia, qui est un film très élégiaque quand même, qui est un film très mélancolique, tout d'un coup lui propose une suite comme ça qui est vraiment dans le grotesque et dans le satirique, je pense que ça a choqué beaucoup de gens. C'était comme si finalement il piétinait ce film. Enfin voilà, donc je crois qu'il y a eu quelque chose de vraiment très difficile au moment de ce retour avec les propositions que faisait Konchalovsky dans le cinéma russe. Et puis, oui, c'est un cinéaste qui réfléchit toujours sur l'histoire et la politique, je pense, de la Russie. Alors, ce qu'on voit dans Sibériade, sur le fait que la révolution a eu lieu et que plusieurs années après, on est à peine au courant au fin fond de la Sibérie. On retrouve ça, en effet, dans Les Nuits Blanches du Facteur, c'est-à-dire cette sensation qu'il y a un monde quelque part là-bas où se jouent des décisions politiques, et puis il y a la réalité d'un monde voilà, qui est comme ça très très éloigné dans le fin fond des campagnes et qui est très différent. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui le travaille. Après je pense que sa relation au pouvoir, elle est très compliquée, mais à la fois ce que je trouve assez estimable, c'est qu'il le dit assez clairement en fait dans le livre, il ne s'en cache pas. Il dit régulièrement, pour les artistes c'est difficile d'être totalement libre, on est toujours dépendant des gens finalement qui nous financent, et puis il dit, voilà, toute la complexité finalement qu'il a eu avec, dans les relations avec le pouvoir soviétique, mais aussi avec le pouvoir russe contemporain, voilà, dont il est peut-être un peu plus proche que ce qu'il veut bien dire parfois.
Тихо! Что, на какие деньги ты пьешь?
Как? Витя угощает.
Какой угощает? Он пенсию еще не получал. Мотор украл у меня. Вот он поит вас.
Какой мотор? Тихо.
Так я не поняла. Леша, так,
я не врубилась, блин.
Ты у чего, Лех?
У меня вон в гараже.
Ты, блин, Леша?
Vous écoutez France Culture, Plan Large, je suis Andrei Konchalovski avec Michel Simon, Eugénie Zvonkin et Entebin. Dernier film à notre programme Konchalovski, Les Nuits Blanches du Facteur, tourné par Konchalovski en 2014. Vous l'avez dit, Michel Simon, Lion d'Argent au Festival de Venise. Pour ceux qui comprennent le russe, il y a un plaisir décuplé par l'utilisation des gros mots. Hein, on sait que c'est interdit par la loi russe maintenant hein, de faire des gros mots dans des films. Konchalovski rapporte dans ce livre une anecdote très amusante où un journaliste va voir le véritable facteur du film, et non, ça vous gêne pas quand même qu'il y ait autant de gros mots dans ce film, et la réponse du facteur c'est, vous savez, si on parlait sans gros mots ce serait un film muet. Et alors Konchalovski, qui expérimente toujours beaucoup, découvre avec ce film les caméras numériques, et là ce qu'il avait installé déjà avec Le Bonheur d'Asia, ces caméras nombreuses qui tournent ou ne tournent pas, là il vous raconte des choses incroyables, Michel Simon, sur la façon dont il tourne ce film. Comme vous disiez, Entebin, à un moment il s'en va, il laisse le casque, mais il peut carrément laisser une caméra de surveillance dans une maison, partir plusieurs semaines et récolter ce qu'il a filmé pendant ce temps-là. C'est un cinéma qui se réinvente sans cesse, Michel Simon.
Oui, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission, c'est toujours quelqu'un qui expérimente. Ce film a été réalisé donc il y a 5-6 ans, et pour lui c'est la naissance d'une nouvelle ère dans son travail. Le dernier, c'est Michel-Ange. Ça s'appelle Le Péché, qui est un film que j'ai eu la chance de voir pour préparer, pour terminer ce livre.
Alors dites-nous, puisque vous en parlez, puisque ce péché, on l'attend depuis presque un an ou deux, dont on sait qu'il va exister. On ne l'a toujours pas vu. On espère qu'il va bientôt sortir en France. Alors là, vous dites que c'est un film carrément néo-réaliste, Michel.
Oui, c'est un film entre Olmi et Rossellini, dans la mesure où il tourne entièrement en italien dans les ville de Toscane. Il a retrouvé des lieux qui ressemblent à Florence. On ne peut pas tourner à Florence, vraiment, c'est pas possible, mais dans des architectures de l'époque. Par exemple, les ouvriers des marbreries de Carrare sont joués par des ouvriers des marbreries de Carrare aujourd'hui, qui jouent leurs ancêtres il y a 500 ans. Michel-Ange est joué par un dentiste au nez cassé, qui n'est pas un comédien professionnel, et c'est pratiquement que des amateurs. Donc il y a ce côté effectivement Fioretti de Rossellini ou L'Arbre aux sabots, enfin une façon néo-réaliste, et en même temps Konchalovski est même un homme de la dramaturgie, il l'a prouvé dans ses films, c'est pour ça qu'il a réussi en Amérique, il sait ce que c'est que le conflit. Et là c'est un deuxième aspect du film qui est passionnant, puisque c'est un film sur la création artistique, et à travers le conflit entre Michel-Ange et les deux papes qui successivement vont lui confier des travaux, il évoque vraiment le rôle de l'artiste face au pouvoir, un peu comme Miloš Forman dans ce film Les Fantômes de Goya sur Goya, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les papes, c'est un peu le comité central, ou plutôt le pouvoir soviétique, et puis l'inquisition, c'est le KGB ou la censure soviétique. Et comment Michel-Ange réussit à passer à travers? Et d'autre part, ce qui peut dérouter peut-être les directeurs de festival, parce que je crois que le film ne sera pas retenu pour Cannes, ce qui peut dérouter les directeurs de festival, c'est effectivement, c'est que Michel-Ange, c'est l'anti-Charlton Heston dans la fresque de Carol Reed d'il y a 50 ans, où on voyait une sorte de super-héros. Michel-Ange, il est tel que moi j'ai lu beaucoup de choses sur Michel-Ange pour faire ce livre, terminer ce livre, c'est un personnage déplaisant, avare, vaniteux, tatillon, agressif. C'est pas du tout un portrait somptueux du grand génie. En même temps, c'est un génie.
On ne sait pas si c'est un autoportrait de Konchalovsky. En tout cas, il raconte dans votre livre, pour ses rapports avec l'argent, avec le commanditaire, cette chose très drôle qu'il fait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de riches, de nouveaux riches à Moscou. Donc il va les voir, il les tape de quelques millions en leur disant « Tu récupéreras jamais ton argent, mais tu auras fait quelque chose de bien », en leur citant ce proverbe russe, hein, les Russes ne comptent pas l'argent pour deux raisons. La majorité ne compte pas son argent parce qu'elle n'en a pas, et la minorité ne le compte pas non plus parce qu'elle, elle en a trop. Quel est le statut aujourd'hui de Konchalovsky en Russie, Eugène Zvonkin? Il dit que quelque chose quand même a changé après les Nuits Blanches du Facteur. Tout le monde détestait mes films avant, dit-il, et puis là, quelque chose a changé.
Oui, oui, je crois qu'effectivement, ces deux derniers films, alors moi, je ne parlerai pas du péché, parce que je crois que Michel Simon doit être pratiquement le seul au monde à l'avoir vu pour le moment. Je vous
avec les
beaucoup.
Directeurs de festivals,
voilà, avec les directeurs de festivals.
Qu'il refuse.
Voilà, mais en tout cas, je pense que la critique russe ne l'a pas encore vu, donc on ne sait pas encore comment ça sera reçu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Nuits Blanches du Facteur, c'était effectivement un vrai tournant. Et donc, Paradis, qui je crois n'est pas sorti en France. En fait.
Si, si,
il est sorti en France, mais alors un peu discrètement.
Oui, discrètement.
Voilà, malheureusement. Mais en tout cas, en Russie, c'était vraiment deux films qui ont été très fêtés, très célébrés. Et donc oui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est devenu une figure complètement incontournable du cinéma russe, estimé. Il a aussi, on va dire, des rôles institutionnels. Il dirige, par exemple, l'équivalent des Césars en Russie, les Nika. Voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment dans la communauté professionnelle cinématographique en Russie aujourd'hui.
Alors, ce qu'il faut ajouter aussi rapidement, sa figure dans le livre, c'est que c'est un grand directeur d'opéra. Il a monté à Covent Garden, il a monté à la Scala, il a monté au Metropolitan Opera de New York. C'est un grand metteur en scène de théâtre. Il a monté trois pièces de Tchekhov qui se jouent depuis 2-3 ans à Moscou. J'en ai vu une des trois. C'est assez brillantissime. Donc c'est un producteur de documentaires. Donc il a une énorme activité qu'on ignore complètement en France.
Se répond profane, ce sont les Kolkhoziens du Bonheur d'Asia qui l'ont tonné en 1967. Merci Michel Simon. En attendant la sortie en France, on l'espère donc bientôt, du péché. Andrei Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan. Votre livre d'entretien avec lui est coédité par l'Institut Lumière et Actes Sud. Je signale également la parution chez Gallimard d'une vie de cinéma qui rassemble une cinquantaine de vos textes, Michel Simon, publiés sur plus d'un demi-siècle, reflet de vos activités critiques de toute forme et très nombreuses, et puis de votre grande passion, toujours inextinguible, pour le cinéma. Eugène Zvonkin, je rappelle le livre tout à fait passionnant que vous avez dirigé, Cinéma russe contemporain, Évolution, Révolution, publié au Septentrion, histoire d'inscrire aussi Konchalovsky dans le contexte plus large dans lequel il s'ébat aujourd'hui. Côté rétrospective, puisqu'on a mentionné l'Institut Lumière, votre éditeur, Michel Simon, on pourra y voir à partir de mercredi prochain une intégrale Jean-Pierre Melville, maître du polar et pas seulement, ne serait-ce que pour revoir voir Alain Delon dans Le Samouraï, avant la Palme d'Or d'honneur qui lui sera remise à Cannes cette année. La Cinémathèque française, c'est le cinéma de mauvais genre taïwanais qui est à l'honneur jusqu'au 2 mai. Et puis, si vous voulez vous baigner dans les images de Wim Wenders, allez faire un saut ce week-end au Grand Palais. Émotion, la création visuelle du cinéaste allemand dans la grande verrière du Grand Palais. C'est à voir le soir, c'est gratuit. Mais faites attention, ça ne dure que jusqu'au 22 avril. Pour les rééditions en salle, selon vos goûts, vous irez voir Le Testament du docteur Mabuse de Fritz Lang ou Camille Claudel de Bruno Nuitten, qui sont tous les deux ressortis mercredi dernier sur vos écrans. Ntebin, vous auriez pu nous parler d'un de ces deux films dans votre chronique. Ça vous chatouillait aussi de nous parler de la superbe édition Ultra Collector en DVD par Carlotta du Network de Sidney Lumet, ou encore de l'intégrale en coffret DVD des films de Nicolas Philibert chez Blackout. Vous y reviendrez sans doute un jour dans l'émission, mais aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de ça. Influence majeure de Konchalovsky oblige. Après nous avoir fait découvrir au début du mois l'unique film réalisé par l'immense acteur japonais Toshiro Mifune, L'héritage des 500 000, Carlotta propose depuis mercredi dernier une rétrospective en 11 films de la très très fructueuse collaboration de l'acteur avec Akira Kurosawa. Collaboration qui a donné ces films qui ont ouvert les portes de l'Occident au cinéma japonais après le Lion d'Or et l'Oscar de Rashomon en 1950. Mifune et Kurosawa, ça a bien sûr donné Yojimbo, Sanjuro, Le Château de l'Araignée, puis leur dernière collaboration, Barberousse. Mais ça a donné aussi des films beaucoup plus méconnus que ces épopées de samouraïs, des films contemporains de leur tournage, injustement sous-estimés sans doute, et puis que Kurosawa a toujours dû imposer contre la volonté de son studio, la Toho. Vous avez choisi de nous parler de trois d'entre eux, Ntebin, deux films noirs, Entre le ciel et l'enfer, et Les salauds dorment en paix, quel titre extraordinaire toujours, et puis une chronique intimiste, hanté par la peur de la bombe atomique, Vivre dans la peur, dont on vient d'entendre la musique, hein, signée Masaru Sato. Et dans chacun, Toshiro Mifune, qui n'est pas avare de son expressivité dans son jeu, livre des performances qui sont toujours assez dingues. Ici, il a 35 ans, mais il joue un vieillard qui devient fou, Ntebin.
Oui, c'est quasiment une performance de Kabuki dans un film qui se veut réaliste, mais aussi sur la paranoïa antinucléaire. C'est juste après les essais de Bikini et c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui décide d'émigrer avec toute sa famille au Brésil parce qu'il a peur de la menace atomique et qui devient fou. Et c'est peut-être le film le plus inégal des trois dont je vais vous parler, mais qui contient, comme toujours chez Kurosawa, des moments de cinéma absolument extraordinaires. Et faut savoir aussi, là on a passé un extrait de la musique, que Kurosawa avait en quelque sorte promis de faire ce film à son grand compositeur de ses films précédents. Puisque là, il vient de terminer juste avant ce film, Les Sept Samouraïs, qui est un succès mondial. Et là, ce film-là, qui va quasiment passer inaperçu, est dédié dans l'idée à Fumio Hayasaka, qui était son compositeur de prédilection, c'est l'équivalent de Nino Rota pour Fellini. Et donc, il va bannir tout le film de musique, à part le générique de début, et une espèce d'élégie à la fin, après une séquence d'épilogue absolument terrifiante dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, ces trois films. Celui-là, comme on le disait, c'est juste après Les Sept Samouraïs, au milieu des années 50. Et puis, il va y avoir Les salauds dorment en paix, qui est une critique très très féroce sous forme de film à énigmes et de polar du milieu des grands patrons et de la collusion entre la politique et les grands patrons corrompus.
C'est un peu la version contemporaine de Sanjuro.
Un petit peu, oui, c'est vrai, mais c'est un film très contemporain. Ou alors cette fois-ci, on a un autre acteur fétiche de Kurosawa, mais aussi de Ozu, Naruse, etc. L'extraordinaire Masayuki Mori, qui est vieilli et qui au contraire de Mifune, joue le rôle d'un vieillard complètement énigmatique, terrifiant. C'est lui, le salaud qui dort en paix, face à Mifune, qui va se révéler un personnage double, etc. Mais surtout, ça commence par une demi-heure extraordinaire, l'un des plus beaux morceaux de bravoure de tout le cinéma de Kurosawa, qui est une scène de mariage complètement hallucinante, qui commence un peu à la Ozu, et avec des journalistes qui sont comme un chœur antique qui assiste à ce mariage entre des gens de la haute société, et le mariage qui va être d'ailleurs interrompu par une espèce de sacrilège qui va avoir l'effet d'un tremblement de terre avec l'arrivée d'un gâteau inattendu.
星は悠々と繋がる。師匠、考えはあったな。正真正銘の師匠だ。星を挙げるのが目的なら非常停止者という手もあるが、それじゃ子供が危ない。しかし、よし、あいつに引きずり回されるのはおそらくこれが最後だ。それよりボス、星は一人じゃない。共犯が少なくとも二人。子供を見せるやつ金を拾うやつ。しかもそいつらはこの目で見れる。子供はどっち側にいるといいよ。進行方向に向かって左側。すると子供窓で一斉鎌を投げる。そうです。伊藤社は洗面所の窓と言っていた。じゃあいいな、ボス。
Entre le ciel et l'enfer, un film complètement d'un sombre total, adapté de Ed McBain, Ntebin.
Oui, alors c'est l'un des chefs-d'œuvre de ce qu'on pourrait appeler le film noir, parce que c'est un film effectivement qui est adapté d'un roman noir américain, et je pense que c'est l'un des chefs-d'œuvre méconnus de Kurosawa. C'est un film hallucinant qui est à la fois une parabole politique et sociale, mais aussi une adaptation de Crime et Châtiment, mais aussi l'un des films visuellement les plus extraordinaires de Kurosawa, avec une utilisation sans cesse mobile du cinémascope comme on en a rarement vu. C'est du cinémascope noir et blanc, mis à part une séquence. Là, ce qu'on vient de voir, c'est la jonction, la charnière entre le ciel et l'enfer. Bon, c'est l'histoire d'un rapt. Le premier acte, c'est le ciel, et c'est dans une maison qui surplombe un quartier pauvre, mais c'est une maison hyper luxueuse qui surplombe un quartier miséreux de Tokyo. La deuxième partie, ce sera l'enfer. C'est-à-dire une descente dans les bas-fonds, autre titre d'un film de Kurosawa d'après Gorky. Et au milieu de ça, vous avez cette folle épopée dans un train où on doit payer la rançon aux criminels, et qui est un morceau de bravoure hallucinant. À l'époque, c'est le début de l'équivalent des TGV au Japon. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est Toshiro Mifune qui a les sacs de la rançon avec 30 millions de yens qui représentent toute sa fortune et qui vient de recevoir les instructions du ravisseur.
Merci Ntebin, la rétrospective Akira Kurosawa, Toshiro Mifune en 11 films en version restaurée. C'est en salle depuis mercredi dernier. Ces versions restaurées sont aussi disponibles en DVD chez Wildside. Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jean Frédéric Somme. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo Bellini. La semaine prochaine, plan large sur un cinéaste qu'on a déjà cité dans cette émission, un cinéaste qui, comme Andrei Konchalovsky, a quitté le zoo communiste pour la jungle capitaliste, mais qui, lui, est resté à Hollywood jusqu'à sa mort il y a un an. Miloš Forman, dont le très mésestimé à sa sortie et pourtant passionnant Ragtime sort en Blu-ray et DVD accompagné d'un livre après sa ressortie en salle où il était invisible depuis 1981. Vous serez à nouveau des nôtres, Ntebin, pour nous parler du chef-d'œuvre de Jules Dassin, Les Formants de la Nuit, édité lui aussi en un magnifique coffret Blu-ray DVD. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.